Chapitre 10. Une découverte au Louvre. Pendant que Dunbar était assis dans sa chambre solitaire de Maudesley Abbey, retenu prisonnier par suite de la fracture de sa jambe, et attendant avec impatience l'heure à laquelle il lui serait permis de faire sa première promenade en se servant de béquilles, Sir Philip Jocelyn et sa ravissante jeune femme se faisaient promener tous deux sur les populeux boulevards de la capitale de la France. Ils avaient été dans le Midi, puis ils étaient revenus dans la plus gaie des capitales, au moment où cette ville était dans tout son éclat. C'était le commencement de l'année, et cette fois l'année s'inaugurait par une belle gelée et un ciel pur où brillait un soleil radieux. Les boulevards n'étaient pas transformés en un fleuve de boue comme cela a lieu le plus souvent. Le prince Louis-Napoléon Bonaparte n'était encore que président de la République, et Paris n'était pas encore l'étonnante ville aux immenses boulevards qu'il est devenu depuis, sous la main énergique qui le mène et le pare comme un amant sa maîtresse. Néanmoins, c'était toujours la plus charmante ville du monde entier, et Philippe et sa femme étaient heureux comme deux enfants dans ce paradis de briques et de moellons. Il y avait compatibilité d'humeur si complète. L'ennui ne se glissait jamais dans leur tête à tête, et ils ne se trouvaient jamais à court de sujets de conversation. Peut-être était-il quelque peu frivole, mais on peut pardonner ce défaut à deux êtres si jeunes et si parfaitement heureux. Peut-être Philippe s'occupait-il un peu trop de chevaux et de chiens. Peut-être Laura se montrait-elle trop enthousiaste des nouvelles modes et trop entichée des bijoux précieux exposés aux vitrines de la rue de la Paix. Mais s'ils perdaient leur temps en ce moment pendant cette délicieuse lune de miel, s'ils se laissaient aller au plaisir de passer les longues journées ensemble, courant les allées du bois dans leur jolie calèche, s'asseyant au balcon de l'hôtel Meurice et regardant l'immense artère bordée de deux lignes étincelantes et les jardins brumeux dont les arbres dépouillés se détachaient sur le ciel d'un azur sombre, ils se promettaient de faire leur devoir et de se rendre utiles à leur prochain une fois de retour à Jocelyn's Rock. Philippe avait une demi-douzaine de projets pour des écoles libres et des cottages modèles ornés de fourneaux économiques, répondant à toutes les nécessités d'un ménage et de cheminées qui ne fumeraient pas. Laura avait aussi ses projets. N'était-elle pas une riche héritière et son rôle spécial en ce monde n'était-il pas de donner le bonheur aux gens qui n'avaient pas eu la chance de naître sous une influence dorée ? Elle se promettait de faire tourner vers un but utile les talents qu'elle possédait, et parfois le dimanche, lorsque le sermon avait été plus éloquent que de coutume, elle agitait mentalement la grande question de savoir si l'abondance des nouveaux chapeaux et une paire de gants jouvins par jour n'était pas un péché. Mais je suis porté à croire qu'elle décida que chapeaux et gants n'étaient après tout qu'une faiblesse bien pardonnable, puisqu'ils faisaient marcher le commerce. Le baronnet connaissait beaucoup de monde à Paris, et il reçut ainsi que sa femme un accueil enthousiaste de ses amis, qui déclarèrent que Milady Jocelyn était charmante, qu'elle était la belle des belles, et que Sir Philip était le plus heureux des hommes d'avoir découvert cette gracieuse et joyeuse enfant parmi les Misses prudes et guindées de la brumeuse Angleterre. Laura devint fort à la mode parmi ses connaissances parisiennes. Et à la Maison Dorée, plus d'un toast fut porté à la belle Anglaise aux cheveux d'or et aux yeux noirs veloutés. Un matin, Laura dit à son mari, avec un rire joyeux, « Je vais encore faire de vous une victime, mais vous allez me promettre d'être patient et de subir encore une fois mon caprice. Que désirez-vous de moi, ma chérie ? J'ai besoin que vous me consacriez toute une journée au Louvre. Je désire voir tous les tableaux modernes surtout. Je me rappelle tous les Rubens, car je les ai vus il y a 3 ans pendant mon séjour à Paris avec mon grand-père. Je préfère les tableaux modernes, Philippe, et j'ai besoin que vous me renseigniez au sujet des artistes, que vous me disiez ce que je dois admirer et toutes choses de ce genre. » Philippe n'avait jamais rien refusé à sa femme, donc il accéda à sa demande. Laura s'éloigna pour courir à son cabinet de toilette comme une jeune pensionnaire qui aurait supplié pour avoir un jour de vacances et aurait gagné sa cause. Elle revint au bout de 10 minutes environ dans une toilette des plus fraîches, d'un bleu clair et doux comme un ciel de printemps, des gants gris perle, des bottines, une ombrelle et un chapeau qui semblaient avoir été faits de papillons azurés. Ils allaient bientôt arriver à la fin de ce charmant voyage de lune de miel. On était au commencement de février, le temps était doux, le ciel pur. Le soleil brillait, car février à Paris est quelquefois meilleur que le mois d'avril à Londres. La besogne de Philippe ne fut pas légère ce jour-là, car Laura aimait les tableaux d'une façon superficielle et en amateur frivole, semblable à une abeille à l'esprit inconstant et qui est charmée par les myriades de fleurs d'un parterre sans fin. Mais elle s'arrêta devant un tableau qu'elle dit préféré à tout ce qu'elle avait vu dans la galerie. Philippe examinait les tableaux de l'autre côté du salon quand sa femme fit cette découverte. Elle courut immédiatement à son mari pour l'amener regarder cette toile. C'était une tête de jeune paysanne, œuvre exquise d'un jeune artiste moderne, et le baronnet approuva le goût de sa femme. « Oh, je voudrais que vous puissiez vous procurer une copie de ce tableau, Philippe !» dit Laura d'un ton suppliant. « Je voudrais en avoir une pour l'accrocher au mur de mon cabinet de toilette à Jocelyn's Rock. Je me demande qui a peint cette charmante étude. » Il y avait un jeune artiste qui travaillait avec ardeur devant son chevalet et qui copiait un grand sujet religieux qui se trouvait placé près de la toile tant admirée par Laura. Philippe demanda à ce jeune homme s'il connaissait le nom du peintre qui avait fait cette tête de paysanne. « Oui, monsieur, » répondit le peintre avec une politesse empressée. « C'est l'œuvre d'un de mes amis, un jeune Anglais dont la réputation est presque universelle à Paris. Et son nom, monsieur ?»« Il se nomme Kerstal, Frédéric Kerstal. C'est le fils d'un vieux peintre qui se nomme aussi Kerstal et qui a eu une grande célébrité en Angleterre il y a bien des années. » « Kerstal !» s'écria Laura avec ardeur. « Monsieur Kerstal !»« Mais c'est Monsieur Kerstal qui a fait le portrait de mon père. Je l'ai entendu dire et redire à mon grand-père, et il l'a emporté en Italie, en promettant de le rapporter à son retour, après 1 an ou 2 d'études. Philippe, je voudrais bien voir ce vieux Monsieur Kerstal, parce que, voyez-vous, il se peut qu'il ait conservé ce portrait jusqu'à ce jour. » Et j'aimerais beaucoup à avoir le portrait de mon père alors qu'il était jeune et avant que les ennuis d'une longue vie l'eussent changé, ajouta Laura avec une certaine tristesse. Bientôt elle se retourna vers l'artiste et lui demanda où demeurait M. Kerstal le père et s'il y avait moyen de le voir. Le peintre leva les épaules et contracta ses lèvres d'un air méditatif. Mais madame, dit-il, ce monsieur Kerstal le père est très vieux, et il y a longtemps qu'il a cessé de faire de la peinture. On disait même qu'il était un peu en enfance, et qu'il ne se souvenait pas des circonstances les plus simples de sa vie. D'autres personnes affirment que sa mémoire ne lui fait pas défaut complètement, et qu'il critique encore très sévèrement les ouvrages des autres. Le peintre aurait continué encore plus longtemps sur ce sujet, mais Laura était trop impatiente pour être polie. Elle l'interrompit en lui demandant l'adresse de Kerstal. L'artiste sortit de sa poche une de ses cartes à lui et y écrivit au crayon l'adresse demandée. « C'est de l'autre côté de l'eau, madame, dans la rue R, au-dessus du bureau d'un journal, » dit-il en présentant la carte à Laura. « Je ne crois pas que vous éprouviez de grandes difficultés à trouver la maison. » Laura remercia l'artiste, prit le bras de son époux et s'éloigna avec lui. « Je ne tiens pas à voir d'autres tableaux aujourd'hui, Philippe, » dit-elle, « mais je voudrais que vous consentissiez à me conduire immédiatement à l'atelier de M. Kerstal. Vous me ferez un grand plaisir, Philippe, en me répondant oui. » « Quand ai-je jamais répondu non à ce que vous m'avez demandé, Laura ? Nous allons nous rendre chez M. Kerstal immédiatement, si vous le désirez. Mais pourquoi, chère amie, êtes-vous si impatiente de voir ce vieux portrait de votre père ? Parce que j'ai besoin de voir comment il était avant d'être allé aux Indes. J'ai besoin de voir ce qu'il était, jeune et beau, avant que le monde l'eût endurci. Ah, Philippe, depuis que nous nous sommes connus et aimés, il me semble que je ne tiens et ne pense à personne qu'à vous sur cette terre immense. Mais avant ce moment, j'avais un très grand chagrin au sujet de mon père. Je m'attendais à le trouver si affectueux pour moi. J'avais échafaudé tant de choses sur l'espoir de son retour, que je croyais que nous serions plus unis et plus chers l'un pour l'autre que jamais père et fille n'avaient été jusque-là. Je croyais tout cela, Philippe. Toutes les nuits je faisais le même rêve, ce rêve heureux et brillant où je voyais mon père revenir auprès de moi, sentant ses bras vigoureux qui me pressaient contre sa poitrine, et les battements de son cœur qui se confondaient avec ceux du mien. Mais lorsqu'il revint à la fin, il me sembla que ce père était un homme de pierre. Son visage pâle, immobile, me repoussait. Sa voix dure et froide glaçait mon sang. J'avais peur de lui, Philippe. J'avais peur de mon père. Et peu à peu, nous arrivâmes à nous fuir, jusqu'à nous regarder comme des étrangers et pis que des étrangers. Car j'ai vu mon père me regarder avec une expression d'horreur absolue que je lisais dans ses yeux sévères et cruels. Pouvez-vous vous étonner alors que j'éprouve le besoin de voir ce qu'il était dans sa jeunesse? J'apprendrai à l'aimer peut-être, si je puis voir l'image souriante de sa jeunesse perdue. Laura dit tout ceci à voix basse, tout en traversant avec son époux les splendides galeries du Louvre. Elle marchait très vite, car elle était aussi animée que l'est un enfant qui a projeté une partie de plaisir.